9h22, en ce lundi, on souhaite un bon début de semaine. Mine de rien, le changement d'heure, ça t'a-tu rentré dedans?
Non, pas pantoute.
Pas pantoute.
Zéro open bar. Écoute, non, parce que tu viens de me poser la question, j'ai fait changement d'heure.
Hier matin, j'étais en train de lire, c'est rare que je fais ça, j'étais en train de lire le Journal de Québec papier. Mm-hmm. Comme dans le temps. Comme j'aimais le faire dans le temps. Là,
c'est ouais.
Je prenais mon café. Puis
ben oui.
J'allais au restaurant, puis je lisais le Journal de Québec papier. Il était, écoute, il devait avoir 300 pages, là, tellement mm-hmm. qu'il était épais. Puis il y avait un bon dossier sur les élections municipales. Je me suis dit, je sais pas si Jeff va avoir accès à ce journal papier. J'ai pensé t'écrire, puis j'ai complètement oublié.
Je serais allé l'acheter.
Mais c'était très, très, très étoffé. Ben là, c'est derrière nous. Quoi qu'on va parler peut-être encore des élections. Celle-ci à New York dans les prochaines minutes avec notre chroniqueur international que la grippe aujourd'hui, David Chabot. S'il se passe quoi que ce soit sur nos routes, les amis, c'est le 88-971-1021. C'est par texto. Aujourd'hui, c'est de la pluie, entre 5 et 10 mm ce matin et cet après-midi. Et ce soir, même chose, entre 5 et 10 mm annoncés. Un maximum qui pourrait monter jusqu'à 10 degrés. Monsieur Chabot, comment allez-vous?
Ah ben, ça va. Je me tiens loin de vous autres quand même. Je veux pas vous donner les microbes d'Halloween en direct.
Ouais, mais là, je comprends pas. T'as pas d'enfant, puis t'es le gars qui a pogné le plus souvent la grippe dans la dernière année que je connais.
Ça, c'est vrai.
Ouais.
Ben, écoute, quand t'es fait en mousse de sécheuse, hein, moi, je mets ça sur le dos de la génétique, là, qu'est-ce que je te dis?
Ah, c'est la génétique. Mais là, faut diversifier ton alimentation. Faut que tu te laves plus les mains.
Ouais. Puis là, dis à ton boss qu'il arrête de te faire travailler 70 heures par semaine.
Ouais,
par semaine.
Un,
là, tu manques bon de sommeil, David.
Hey, les gars, vous avez vraiment une belle naïveté que je puisse changer ça, mais j'apprécie beaucoup.
Mais merci d'être là, même si t'as la grippe ce matin. On parle des élections. On va parler peut-être du municipal après, là, mais les élections à New York sont franchement intéressantes.
Là. Ben oui, il y a un candidat qui a émergé un peu, je veux pas dire out of nowhere, parce qu'il existait déjà quand même, là, mais son nom, c'est Zoran Mamdani, tu sais. Puis je te dirais que je suis pas les élections nécessairement de toutes les grandes villes aux États-Unis, là, parce qu'évidemment, ça va vite, puis il y en a plusieurs. Mais pour lui, c'est comme imposé dans mon feed d'Instagram, parce qu'il est très, très actif sur les réseaux sociaux. Fait que là, ça a comme piqué ma curiosité. Puis c'est un gars qui est vraiment très sympathique, sincèrement. Là, tu sais, il va dans des podcasts un peu plus de bros, mettons, là, puis il est très à l'aise là-dedans. Puis tu vois qu'il joue vraiment pas la cassette. Fait que c'est comme charmant comme candidature. Fait que je me suis dit, Krim, ce gars-là, tu sais, c'est quoi sa plateforme, puis qu'est-ce qu'il représente? Puis à mesure que tu écoutes ça sur les réseaux sociaux, ça a l'air parfait, là, tu sais, c'est la belle égalité, puis tout le monde est a sa place dans la société, puis on va ramener l'abordabilité de la vie de l'avant.
C'est un socialiste!
Ben, si tu regardes juste les réseaux sociaux, là, ça a pas l'air de ça.
Ah non?
C'est là que je m'en allais, parce que tu sais, moi-même, comme observateur politique intéressé, j'étais comme, ah, il a l'air quand même assez modéré. Mais quand tu checkes sa plateforme, par exemple, et là, je te dirais que là, c'est pas pareil, parce que là, il parle de geler des loyers, augmenter la taxation dans les quartiers blancs, là, il appelle ça les white neighborhoods, whiter neighborhoods, je devrais dire. Celle-là, je la trouve quand même un peu salée, là. Puis d'aller taxer les gens plus riches. Puis bon, tu sais, on connaît ce genre de plateforme-là, là, c'est très inspiré de Bernie Sanders. Donc là, lui, là, comment ça fonctionne justement la mairie à New York? Là, je peux pas te dire si c'est vrai dans toutes les grandes villes, mais en tout cas pour New York, il y a des primaires parce que les courses à la mairie sont vraiment axées comme sur la présidentielle avec les démocrates et les républicains. Donc là, il faut que tu gagnes la primaire, je te dirais, là, de ton parti, puis après ça, tu vas aller représenter les démocrates ou les républicains à la mairie de New York. Donc, dans la course, lui, Mamdani, a gagné la primaire démocrate, mais un de ses challengers, c'était Andrew Cuomo, qui est assez connu, dans le fond, là, c'est l'ancien gouverneur de l'État de New York pendant une dizaine d'années. C'est lui qui a géré notamment là, les débuts de la pandémie, où ça n'a pas été très, très un succès. Là. Donc, lui, il s'essaye pour revenir comme indépendant, comme maire. Puis, il y a un autre candidat qui s'appelle Curtis Sylwa, lui, républicain. Là. Donc, lui, il est assez dans le moule républicain, là, donc... la loi et l'ordre, la basse taxation, réorganiser la patente. Puis lui, il a fondé une milice locale qui s'appelle les Guardian Angels. Puis dans le fond, eux, ils se promènent dans les rues puis ils essaient de ramener l'ordre d'un point de vue civil. Là, c'est pas des titulaires de charges publiques, mais c'est des gens comme vous et moi qui portent une calotte et un bâton puis qui veulent arrêter le crime finalement en direct dans les quartiers. Là. Donc c'est ça l'état de la situation des candidats là-bas. Là.
David, Luc Laliberté nous en avait parlé justement de ce candidat-là en disant que les démocrates feraient une erreur de se lancer dans le progressisme à l'extrême comme ça en vue des élections de mi-mandat. Mais là, Barack Obama, et ça a sorti il y a de cela 2 heures, offre son aide à Zohran Mamdani s'il est élu maire de New York. Coudonc, les démocrates, vois-tu vraiment un virage chez ce candidat-là pour aller combattre Donald Trump ultimement?
Ben, je partage vraiment la lecture que c'est un candidat qui est dangereux parce que pas dangereux dans la vraie vie, mais au sens politique.
Ben oui.
Tu sais, dans le fond, tout ce qui marche pas du Parti démocrate en ce moment, c'est un peu justement le wokisme, tu sais, les extrêmes dans tous les mouvements. Là. Puis lui, il représente quand même ça. Peut-être pas de la même façon. Il est beaucoup moins dans l'identité de genre. Là. Lui, il est vraiment dans les luttes de classe, là, vraiment le classique, le gauche-droite. Mais oui, effectivement, c'est dangereux parce que là, si tu t'amènes ça vers la gauche, pas mal au bout du spectre, à un an des midterms, le message que tu lances, c'est que le Parti démocrate, c'est le parti des woke et des extrêmes. Pis c'est ça qui a fait passer Donald Trump très fort. Fait que je te dis pas que c'est lui qui va catalyser l'ensemble du pays vers ça, mais c'est vraiment, effectivement, la lecture est très bonne. Là. C'est une représentation de ce que le Parti démocrate ne doit pas faire en ce moment, puis que la tentation est très forte. Parce qu'ils sont noyautés par ce mouvement-là.
On revient à Zohran Mamdani. New York, là, c'est un endroit stratégique là, pour ce qui est des affaires dans le monde entier. Là, tout se passe là. Comment on pourrait mettre un maire socialiste? Là? J'ai de la misère à comprendre le thinking des New-Yorkais. Y a-t-il un petit peu d'hypocrisie là-dedans?
Ben, c'est parce que c'est les grandes entreprises qui sont à New York, mais les gens qui vivent à New York en ce moment, là, les gens comme toi puis moi, là, évidemment, ils ont du travail puis ils ont un gang-pain, là, mais ils ont de la misère à arriver parce que si tu regardes là, les annonces de qu'est-ce qui est alloué puis à vendre à Manhattan puis dans l'île de New York en général, faut que tu sois vraiment, vraiment loin pour que ça aille de l'allure là, parce que si tu loues quelque chose en bas de 2000 par mois, c'est littéralement un garde-robe avec une fenêtre. Là. Donc là, il y a vraiment une crise du coût de la vie. Ça devient une ville un peu, je veux pas dire Walt Disney, c'est peut-être pas la bonne caricature, mais où c'est très actif pendant la journée, ils se brassent des grosses affaires, puis le soir, ça meurt pas parce qu'il reste des gens, mais ils ont beaucoup moins d'argent dans les poches pour faire vivre les commerces, puis activer la ville, si on veut. Donc là, cette espèce de crise sociale-là, qui est vraie dans beaucoup de grandes villes au monde, là, c'est une crise de l'abordabilité, puis du coût de la vie, puis c'est là-dessus que Mamdani, il s'est arrimé. C'est pour ça que ça frappe fort, parce que monsieur, madame, tout le monde sur le plancher là-bas se disent « Hey man, je gagne, je sais pas, 100 000 par année, puis j'arrive pas, c'est pas normal, ça prend des solutions. » Puis lui, il arrive avec des solutions qui sont, on va le dire, un peu simplistes, mais quand t'es un peu désespéré, t'écoutes ça, puis tu te dis « C'est ça que ça prend pour que ça change. » Tu sais. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'attrait. Là.
Donc là, les élections à New York, c'est demain?
C'est mardi, oui, c'est ça demain, effectivement. Donc
On parle d'un gars qui a la grippe. Là.
Hey, voilà. Ah, ouais.
Hey, donne-moi une chance, j'ai le cerveau dans la mort, mais oui, effectivement, c'est dommage.
Mm-hmm. Ouais, puis on est à un an, jour pour jour, à peu près, des midterms, donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans cette grande ville des États-Unis.
Absolument, surtout que c'est vrai pour tous les nouveaux maires dans toutes les grandes villes, là, Québec, Canada inclus. Quand ils arrivent, ils ont des belles idées, puis ils savent pas trop comment la machine marche, puis là, bing-bang, ils veulent passer leur programme pour montrer qu'ils sont dans l'action. Fait que c'est là que tu fais tes pires erreurs. Puis c'est arrivé avec Bruno Marchand quand il a commencé son mandat il y a 4 ans. Il a pas fait d'erreur mortelle, mais il était beaucoup dans son idéologie. Puis finalement, à mesure que le temps a avancé, il est devenu beaucoup plus pragmatique. Mais là, comme vous le dites, dans un an, les midterms, c'est là que tu peux faire un an de dommages avant de te rendre compte comment gérer vraiment une ville. Puis là, ben le mal va être fait pour les midterms, effectivement. Mm-hmm.
OK, revenons ici chez nous, dans le secteur de Montréal. Une nouvelle mairesse est en place. Soraya Martinez-Ferrada, produite de l'immigration. Une jeune fille qui est partie de chez avec ses parents du Chili parce qu'ils étaient socialistes. Se sont établis à Montréal. C'est une femme qui est extrêmement impliquée. Elle a réussi à être députée libérale, même ministre du tourisme là, sous la gouverne de Justin Trudeau. Elle a décidé qu'elle se lançait à la mairie et elle l'a remportée. Comment trouves-tu cette belle victoire-là?
Ben, j'ai hâte de voir dans le concret comment ça va se passer parce que sa plateforme était beaucoup plus pragmatique que ce que Valérie Plante nous avait l'habitude de proposer. Puis Luc Rabouin, si je ne me trompe pas,
oui.
Il n'était pas aussi à l'extrême que Valérie Plante sur sa programmation, mais il était encore beaucoup à gauche. T'sais. Donc là, on a une mairesse qui a un beau profil, qui était... C'est le fun d'avoir deux femmes qui se succèdent, mais tu sais, c'est la compétence qui est importante. Là. Puis elle a quand même eu l'expérience de la gestion, tout ça, mais elle propose des choses qui ont vraiment de l'allure. Donc là, j'ai hâte de voir si vraiment, tu sais, réduire le nombre de comptes dans les rues de Montréal, c'est des stéréotypes, mais c'est tellement vrai, là. Puis essayer de ramener une vitalité, si on veut, dans la ville, puis essayer de couper des pistes cyclables, là, c'est essentiellement s'en aller vers ça, sans être aussi, on va dire, à droite que Respect Citoyen à Québec, mais être un peu dans cette mouvance-là. Puis c'est un gros signal de changement pour la ville, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que même si Montréal, en tout cas, je vais parler personnellement, on n'aime pas toujours cette ville-là, parce que tu sais, il essaie beaucoup d'influencer la vie des autres à travers le pays, là, mais à travers le Québec, je devrais dire.
Oh,
mais on a besoin
pays.
D'un Montréal fort.
David, est-ce que Montréal peut redevenir une plaque tournante économique?
Ben, c'est un peu ça mon point. Il faut que ça le soit, parce que tu sais, moi j'adore vivre à Québec, puis j'irai pas vivre à Montréal, parce que c'est notre moteur économique provincial. Puis plus ça va, puis moins c'est vrai. Puis il y a des sièges sociaux qui ont beaucoup bougé. Puis j'en parlais cet été, puis j'étais allé à Toronto avec ma blonde, là, rien de bien exceptionnel, mais ça faisait longtemps que j'étais pas allé, tu sais. Puis tu te promènes dans le quartier financier, les tours de 70 étages, que c'est le siège social de la CIBC puis de la TD. Puis tu sais, je me disais, dans le temps, c'était à Montréal que ça existait, ces sièges sociaux-là. Là, puis là, ben il y a eu les péquistes qui sont tous partis, mais tu sais, il y a un peu cette espèce de fantôme de prestige dans la ville qu'on doit retrouver. Puis oui, je pense que c'est encore possible, parce que Montréal a de l'attrait quand même à l'international, puis il y a encore de l'activité économique. Mais il faut arrêter de rendre l'île invivable pour les vraies personnes, les vrais gens. Parce que là, tout le monde s'en va dans la couronne, dans les périphéries au nord puis au sud. Puis ça finit que la ville centre, qui est vraiment là où il y a les sièges sociaux normalement, ben est morte, puis c'est plate d'y aller, là.
Actuellement à Québec, bon, on a reçu une nouvelle conseillère tantôt, Mélanie Sauvé, qui est conseillère à la Ville de Québec pour Respect Citoyen. Est-ce que tu t'attendais à une performance comme ça de Respect Citoyen? La performance de Sam Hamad, tu l'as trouvée comment? Le maire est passé plus fort que je pensais. Je pensais certainement que le maire allait repasser, mais je pensais pas qu'il allait être aussi fort. Parle-moi un peu des élections à Québec.
Ben écoute, j'avais fait un post hier, un genre de mini pool là, où j'invitais les gens à me donner leurs prédictions.
Tu t'es trompé complètement!
Ah, c'était quand même dans le champ, parce que sincèrement, je voyais...
C'est le genre de privilège que toi t'as, que si moi je fais ça, ça met ma page Facebook en
fou. Oh, que t'as pas eu des commentaires aussi de partisans avec des langages un petit peu trop haineux.
C'est épouvantable. J'ai fait un post bien neutre hier, David, là, puis tu iras voir le nombre de personnes qui s'insultent là-dessus. C'est une catastrophe, les élections municipales à Québec, là.
Ben, je trouve qu'il y a comme un beau paradoxe, parce que les candidats entre eux ont été somme toute assez respectueux. Là, il y a eu des flèches, puis bon, il y a eu toute la grande saga entre Respect Citoyen et les deux chefs de Québec sur qui est le chef de qui. Là, mais en général, je trouve pas que ça a été une campagne sale et toxique. Sauf que sur les réseaux sociaux, là, puis c'est vrai pour plusieurs partis, c'était vraiment une guerre ouverte. Puis je trouve que les partisans de Respect Citoyen ont été les plus actifs, là, à tort ou à raison, mais je les voyais sur beaucoup de pauses où que simplement, il disait, la solution, c'est Respect Citoyen, tu sais, sur un enfant qui avait rien à voir. Fait que oui, sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment la guerre des tranchées. Mais dans la vie publique régulière, là, ça a été quand même une belle campagne. Mais je trouve qu'on s'est éloigné beaucoup, je suis pas le premier à le dire, là, mais des enjeux fondamentaux. Tu sais, on a passé des semaines à spinner sur les histoires de Sam et de Stéphane Lachance. Mais en réalité, tu sais, il fallait se parler pour vrai de comment qu'on fait pour lutter à l'itinérance, puis comment qu'on fait pour avoir une croissance économique qui marche. Puis finalement, tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent par rapport à ces sujets-là, c'est quelques annonces saupoudrées qu'on a eu la chance de voir dans les médias parce que ça a été rapporté. Puis là, je veux pas partir en croisade contre les médias, c'est pas ça mon point, c'est juste que on est pas mal dans la politique spectacle, là, encore malheureusement, même au municipal, parce qu'on veut aller chercher la nouvelle qui est croustillante, qui fait crunch sous la dent. Puis ton histoire de remettre des terrains synthétiques, mettons, pour le baseball, ça m'intéresse pas tant en tant que journaliste. Fait que là, ça donne souvent à ça comme résultat, puis c'est plate, là.
Hey, vois-tu, je suis pas d'accord avec toi, David, parce que moi, j'ai pour dire, les candidats ont juste à se présenter, à faire des promesses, à pas tenter une alliance qui fonctionnera pas, puis à pas faire de chichi. Puis les médias n'auront pas le choix de couvrir ton programme électoral.
Ben, écoute, la saga des deux partis qui veulent merger puis pas merger, finalement, ça, c'est 100% leur responsabilité. C'est eux autres qui ont créé cette situation-là, puis c'est eux autres qui ont vécu finalement les retombées de ça, parce que après cette séquence-là, Sam Hamad s'est effondré en tant que parti puis comme candidature. Puis Respect Citoyen, on voit que ça a quand même ébranlé les colonnes du temple là, dans l'espèce de la portion de la population, dans le fond, qui voulait ce wedge-là en petit rameau. Tu sais. Ça, c'est 100% leur faute. Mais tu sais, des nouvelles sur des histoires de permis de circulation puis de loyers.
Ah ouais, mais c'était élevé en crime, là, les amendes d'étiquette puis les loyers pas payés. Là. Toi, pour toi, tu te présentes comme futur maire de Québec, tu dis que tu vas gérer la ville de façon rigoureuse, puis pour toi, c'est pas des éléments intéressants?
Bien, c'est de notoriété publique. Je suis pas en désaccord avec ça, mais il faut choisir ses combats pareil. Parce que, ouais, mettons là, que Stéphane Lachance avait pogné en feu, puis il avait monté les sondages, puis il s'était rendu sincèrement candidat à la mairie. Bien, je trouve qu'on n'a pas posé suffisamment de questions sur des enjeux fondamentaux sur la gestion de la ville. Parce que oui, on veut quelqu'un qui marche droit, là, on est d'accord, sauf que l'espèce de vision orthodoxe que ça doit être des humains parfaits, ça se peut pas. Par contre, j'étais allé dans le débat de la Chambre de commerce, puis j'en ai écouté deux, trois autres, puis je peux vous dire que les réponses par rapport à l'urbanisme, le développement de la ville, même la croissance économique,
c'était plus pertinent selon toi au débat.
Ben oui, mais c'était très mince les réponses qu'ils donnaient. Puis ça n'a pas été couvert bien dans les médias, parce qu'on préférait lui taper sa tête parce qu'il n'avait pas permis de son permis de conduire.
Tu sais, c'est des chefs, là, puis à un moment donné, il faut être la couenne dure quand t'es un chef. Là. Moi, je pense plus à la mère monoparentale qui avait de la misère à payer son loyer puis qui a vu sa face placardée dans le journal.
Ah ben oui,
ça,
Madame Pince,
ça hallucinant.
Oui.
Non, ça, c'est pas la mère monoparentale, c'est l'autre d'avant. C'est l'autre d'avant qui avait vu.
Oui, c'est vrai.
Puis Mme Pincemain elle s'est retirée pour des problématiques de santé.
Santé, puis on a sorti qu'elle avait 30 000 $ de dette.
Une
là.
Semaine et demie plus
ça
tard.
Ça n'avait pas de sens.
Fait
ça.
Que là, tu sais, le choix éditorial est un peu particulier. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, David. Dans un sens, on aurait eu avantage à jaser plus de ce qu'on voulait mettre en place, mettre de l'avant plus les programmes que les vies personnelles des individus. Mais tu sais, Jeff. Fait part que lui, ça, c'est le genre de choses qu'il trouve pertinentes. Puis c'est pas le seul. Dans l'entreprise, quand j'ai fait le tour, il y a deux, trois semaines, il me disait « Ah, ben moi, je pense que oui, c'est pertinent. » Il y en a d'autres qui disaient non. Fait que je veux dire, votre opinion à
ce moment-là. Oh, exactement. Je dis pas que j'ai la science infuse de être là.
Mais tu sais, l'important, c'est qu'aujourd'hui, on passe à d'autres choses, puis on rebâtit sur ce qu'on a mis en place hier soir. Là, c'est le maire Marchand qui va être là, qui va être très, très majoritaire. Trois conseillers qui seront dans l'opposition. Ça ressemble à quoi, une opposition aussi mineure? Là? Il y a un budget de recherche qui est avec ça. Je sais que toi, tu t'es intéressé, David, aux élections dans le secteur de Lévis. Tu as travaillé en politique à Lévis. Les budgets de recherche, ça peut varier entre combien et combien? C'est autour de 600-700 000 à peu près pour embaucher des gens?
C'est un ratio du budget du cabinet du maire en fonction. Okay. Donc là, c'est de mémoire, là, puis cite-moi pas encore avec ça, mais il me semble que c'est le tiers du budget. Fait que là, si le maire a un cabinet qui va avoir, je sais pas, 750 000, ben l'opposition a 250 000 là, pour son staff. Puis ça, c'est du staff de recherche. Fait que c'est vraiment des gens qui sont à la fois, mettons, attachés de presse, puis qui vont aller fouiller des dossiers, faire des demandes d'accès à l'information, parce que ça, par ailleurs, c'est un peu paradoxal, là. T'es un élu full patch au conseil municipal, mais pour avoir certaines informations, il faut que tu passes par des demandes d'accès à l'information. Mais bon, ça, c'est un autre dossier. Donc là, tu sais, le respect citoyen, là, leur défi, là, premièrement, c'est de gérer l'histoire du DGEQ, là, parce que c'est pas fini, cette histoire-là, là, de la sollicitation pour se retirer sa candidature avec Sam, ben, il va y avoir des suites là-dessus. Donc là, la première question, c'est est-ce qu'il va y avoir encore trois conseillers municipaux en vigueur dans quelques mois? Ça sera à voir. Mais disons qu'on prend l'hypothèse que ça poursuit, puis ça va être un blâme, un tapage de doigts ou quelque chose comme ça. Ben leur gros défi, c'est de pas faire ce que j'ai fait avec Québec 21 en 2017, ou que le parti a fait, en fait, une fois que la campagne était finie. Moi, j'avais quitté à ce moment-là, mais ils sont arrivés à l'opposition, puis ils se sont opposés à tout systématiquement juste parce qu'ils étaient contre. Là, ben, c'était fait challenger beaucoup sur le premier budget, puis je me souviens de cette conférence de presse-là où c'était vraiment risible comment c'était amateur. Puis là, moi, d'un œil extérieur, à ce moment-là, parce que je faisais ma belle-mère, je me disais « Hey, ça n'a pas de bon sens, t'as une chance de bien faire à l'opposition, puis t'arrives, puis tu fais juste n'importe quoi. » Donc là, leur défi, respect citoyen, là, c'est d'arriver, de se mettre les deux pieds à terre, puis de dire « OK, on sera pas systématiquement opposé à tout. Le premier budget, faut le critiquer, à la limite voter contre, mais il faut qu'il y ait des bonnes raisons.
Ouais. »
Mais après ça, faut proposer des choses, proposer des idées, des programmes alternatifs, puis pas faire de la critique pour de la critique, parce que ça fait de l'opposition qui dure 4 ans puis qui disparaît dans l'univers après. Là.
Pour ce qui est de l'enquête, ça pourrait durer entre 12 et 18 mois avant d'avoir un verdict?
Ben écoute, j'ai hâte de voir, là, parce que ça va devenir un dossier assez prioritaire. Là. Un candidat municipal de tiers parti qui passe pas, puis que là, il y a une allégation, ça devrait pas passer à la même priorité que des candidats municipaux élus, dont le chef de l'opposition officielle, la deuxième plus grande ville du Québec. À ce temps, est-ce que le DGEQ gère son trafic de la même façon que je viens de te dire là? Je ne le sais pas. Mais j'espère que ça ne durera pas 12 à 18 mois parce que ça va toujours revenir systématiquement sur le tapis. Stéphane Lachance va faire une critique par rapport à une annonce quelconque. Là, on va dire, bon, c'est bien, toi, de toute façon, tu ne seras même plus là pendant 6 mois. Tu sais, je suis pas mal certain que ça va arriver, ces situations-là. Fait que ça peut pas rester en suspens aussi longtemps que ça pour des raisons administratives, là.
OK. Dossier du tramway, avec l'élection d'hier, le maire Marchand qui est passé tempête, c'est réglé. Là. Il n'y aura plus d'opposition à ce projet-là.
Bien, là, moi, j'ai milité contre le CRB dans le temps, puis j'ai été assez longtemps contre le tramway. Puis là, à force de voyager, d'y penser, puis de se comparer à d'autres grandes villes, je me dis, là, on va arrêter de virer en rond, là, puis on va en faire un grand projet à Québec.
T'as changé d'idée? Comme les gens intelligents.
Ben, écoute, là, je veux pas me qualifier d'une chose ou d'autre, sauf que, tu sais, ça n'a pas de bon sens d'avoir une ville qui va approcher le million de citoyens, puis d'avoir juste des autobus qui sont Q sur un arrêt merci. Fait qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions à ça, puis c'est ça le projet qui est à la table. Il est certainement pas parfait, mais c'est celui-là qui est mûr à être réalisé. Puis là, ben, Marchand, il est rentré mur à mur. Notamment par rapport à cette question-là que les autres partis ont essayé de faire une question référendaire avec. Mm-hmm. Donc là, il est pleinement légitimé d'aller de l'avant. À cette heure, est-ce que la CAQ va suivre? Est-ce que le fédéral va mettre de l'argent dans le pot? Ça, c'est toute la même poutine qu'on était il y a deux semaines.
Ah, en effet, parce que le fédéral, le budget demain, il va être entre 75 à 100 milliards de déficit. Donc, à voir quel argent ils auront. Hey David, est-ce que le maire Marchand s'est démarqué par son positivisme dans la campagne électorale puis ça a fait en sorte que même des anti-tramois ont voté pour lui?
Ben c'est drôle parce que je vous ai pris une coupe de notes avant de vous parler, puis le highlight de la campagne de Marchand, c'est deux choses, là, c'est effectivement qu'il était très positif. Tu sais, Bruno Marchand, c'est un gars qui essaie de il cherche un peu le combat parce qu'il aime ça se pogner, tu sais. Fait que là, des fois, il y a des moments où il a peut-être été un peu malhabile par rapport à ça, mais ça n'a pas eu d'impact. Parce que dans le général, c'était beaucoup la ville de demain, c'est ça qu'on veut, on veut aller de l'avant. Donc ça, je pense que ça a séduit beaucoup de gens qui ont certainement voté pour cette vibe-là, pour avoir un peu d'espoir pour la ville de Québec. À tort ou à raison, là, dans le sens qu'il y a quand même un mandat précédent à défendre, mais ça a séduit certainement les gens. Alors que les partis d'opposition, c'est un peu la nature de leur implication, mais ils étaient beaucoup là pour critiquer, tu sais, de dire « Marchand n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça ». Puis là, ça finit que tu es dans une posture, que tu écoutes ça, puis tu te dis « Ouais, tu sais, est-ce que je veux un bougonneux à la tête de la ville? » Ben, je pense que ça a quand même été un facteur pour plusieurs personnes. Puis je trouve aussi que le deuxième élément de la campagne de Bruno Marchand, c'est que la qualité des communications, de la production audiovisuelle, les montages graphiques, tout ça, c'était extrêmement sharp, c'était très aligné, tout était conforme, tout était cohérent. Puis ça joue une grosse différence parce que tu regardes sa campagne puis tu dis, OK, eux autres, ils étaient prêts, c'est des professionnels puis ils savent ce qu'ils font. Oui, il y avait des budgets pour se préparer, là, on est d'accord, il y a plein de raisons à ça, mais ça a quand même eu ça comme conséquence, alors que le parti de Saint-Mamad, des fois, c'était un petit peu, on va dire, alambiqué, comme les annonces, c'était moyen, ficelé, c'était pas nécessairement préparé. Donc, il y a eu une grosse différence en termes de perception de qualité aussi pour les deux, les plusieurs parties qui ont été impliquées. Là.
David Jabot, c'est toujours un plaisir. Donc, prescription de Dr Marceau, ponce de gin, mouche de moutarde, puis tu devrais être top shape demain.
Que je vais l'essayer, là, la ponce de gin au bureau. Je suis pas sûr que ça va passer, mais je mets ça au RH et je te reviens la semaine prochaine.
Hey, le groupe Trudel?
Oui.
Ponce de travailler gin. Là, t'as pas le droit de boire de gin. Tu travailles 70 heures par semaine. David, qu'est-ce que tu fais?
Ben, il était en politique avant, fait qu'il voulait pas trop y donner de lousse. Merci, David Chabot.
Okay, merci.
Salut mon pote, bye bye. David Chabot, chroniqueur international, on va lui parler la semaine prochaine aussi. 9h46, nous autres on va s'arrêter parce que là le temps commence à nous manquer. Et oui. On revient dans les prochaines minutes. Boulevard 102.1.